Private Equity Podcast. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires, avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans Private Equity, votre podcast dédié au PE. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Aurore Lanchard, Investment Director chez OSS Venture, une startup studio qui construit et investit dans des sociétés sur le marché du manufacturing. Aurore, vous avez un parcours pluriel et nous sommes ravis de le découvrir. Diplômée en business management à l'IAE de Paris, vous avez débuté votre carrière chez Believe, spécialiste de la musique numérique, en tant que label manager, puis vous avez fondé votre propre startup, Melberries, qui a depuis été acquise par le groupe Webedia. Plusieurs grandes maisons, ensuite, sur la partie Customer Success, dont Doctrine, plateforme d'intelligence juridique, et Shine, un compte qui simplifie la gestion des finances professionnelles, où vous créez le service client et vous l'avez scalé de 0 à 50 000 clients. Un très beau parcours, donc, qui vous mène aujourd'hui chez OSS Venture, où vous occupez le poste de directrice des investissements. Nous sommes très heureux, Aurore, de vous accueillir pour partager votre expertise. Soyez la bienvenue dans notre podcast.
Merci à vous.
Aurore, une première question pour démarrer cet entretien. Pourriez-vous nous présenter OSS Ventures ?
Bien sûr. Donc, OSS Ventures, nous sommes deux structures. La première, c'est donc un venture builder, une structure qui crée des startups. Et la seconde structure est un fonds d'investissement. Donc, le venture builder a été créé il y a 4 ans maintenant par Renan de Villiers, que vous connaissez déjà.
Absolument. Nous avons le plaisir de rencontrer à l'IPEM à Cannes en janvier dernier.
Donc Renan, qui a un fort ancrage dans le manufacturing puisqu'il a travaillé plusieurs années chez McKinsey dans l'excellence opérationnelle. Il a été numéro 3 des opérations chez Richemont, un grand manufacturier dans le luxe, notamment Cartier, Montblanc.
Oui.
Et puis il a créé une start-up et à la série B, il a revendu ses shares à Google Ventures. Et en fait, avec ce cash-out, il avait envie d'investir dans des start-up dans le manufacturing en Europe. Mais il y a 4 ans, le marché était différent, était beaucoup moins mature que ce qu'il est aujourd'hui. Donc son idée, c'était « je ne peux pas investir ». Donc quitte à pouvoir investir, autant créer moi-même les startups. Et c'est assez particulier le secteur de l'industrie parce qu'on ne peut pas créer de bonnes startups si on n'a pas d'insight du terrain. Donc la première chose que Renan a faite avec les équipes d'OSS Venture, ça a été de créer un réseau d'industriels. Aujourd'hui, c'est un réseau de 1600 industriels qui couvre tous les pans de l'industrie. Ça va de l'automobile, en passant par la pharma, la food.
1600, comment on fait pour gérer ça et transformer cette donnée en information utile?
Alors, on a une vraie stratégie de data en interne. Donc, chaque entretien, chaque interaction qu'on a avec les industriels, elles sont dans notre base de données. Aujourd'hui, on a une base de données de 10 000 heures d'interviews.
Wow.
Avec des industriels. Typiquement, si vous tapez « maintenance » dans notre système, vous allez voir, il y a 500 heures. Et en fait, on a les interviews qu'on labellise automatiquement avec de l'AI sur chacun des sujets pertinents dans l'industrie.
Donc, taguer, analyser, classer de telle sorte qu'en multifacette, on soit capable de retrouver l'information pertinente.
Exactement.
En tant que venture builder, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette approche ? Je crois qu'on parle aussi de Startup Studio, mais
absolument.
Vous allez nous préciser cela. Et comment elle se différencie de fonds d'investissement ou de VC traditionnels?
C'est assez différent. Un venture builder, c'est une structure qui va construire la startup, qui va être le troisième cofondateur de la startup. Donc, il va investir du capital et des gens pour construire la startup aux côtés des fondateurs et qui va prendre des shares de la start-up. Donc OSS, par exemple, c'est entre 20 et 30%.
D'accord.
Notre manière de travailler et de construire les start-up, c'est plutôt une approche pragmatique. Donc nous, on explore 15 sujets par an. Sur ces 15 sujets, on va les proposer à un fondateur.
Oui.
Le fondateur va en choisir un, va mener 250 user research interviews avec des industriels. Si 80% des industriels interviewés ont le même problème, à ce moment-là, on va lancer la start-up. Donc, pour nous, lancer la start-up, qu'est-ce que c'est? C'est investir 500K, 100K en capital, 400K en people. Alors, et on va mettre à disposition une équipe, donc Growth, Design, Product, Tech. Et on va construire la startup de rien à 50K de MRR. Quand la startup arrive à 50K de MRR, ensuite elle lève des fonds. Aujourd'hui, on a créé 15 startups. Il y en a 10 déjà qui ont levé des fonds avec des fonds internationaux. Que ce soit des Stride, que ce soit des Pale Blue Dot, ou même des fonds français comme Elaya, Evolem, Isaïe.
Donc vous avez industrialisé, en définitive, et analysé, puisque vous l'avez vécu, ce parcours particulier de start-up, les raisons d'échec ou de time lag. Et donc, comment ça se traduit si je prends aujourd'hui une des 15 structures que vous avez initiées? Comment ça se traduit en comparaison à une start-up plus classique qui aurait été créée hors sol, en définitive, sans votre accompagnement?
Ah, c'est assez intéressant parce que comme moi, je suis dans la partie investissement, j'ai les comparables avec des startups vraiment du même space, mais qui ne sont pas du venture studio. Mmh. Et on voit qu'il y a une différence de 2 ans de time to market. Une startup construite par OSS Ventures, elle gagne 2 ans de time to market. Parce que finalement, on a un unfair advantage avec ce réseau d'industriels et qui n'est pas copiable. Enfin, un fondateur seul, sans OSS Ventures, ne peut pas avoir un réseau aussi étoffé d'industriels.
Et avec cette exigence de s'assurer que ceci correspond réellement à un besoin, que ce besoin est commun au regard de suffisamment d'acteurs, et que donc, à ce moment-là, ça justifie, d'où votre recherche de 15 thématiques annuelles, que ceci correspond réellement, qu'il y a un débouché, et d'identifier les features absolument essentielles sans lesquelles cette start-up ne pourra pas vivre.
Exactement. Vraiment, le fait d'avoir cet accès aux industriels nous permet d'identifier des problèmes qui sont importants et ça nous permet de créer des start-up en fait, qui sont l'oxygène des industriels et pas un jouet. Nous, on veut vraiment créer que des start-up qui sont essentielles pour les industriels.
Donc cette rigueur d'être collé au marché, à la réalité du besoin du marché, de s'éloigner de ce qu'on constate assez fréquemment, c'est-à-dire un amour technologique, mais sans débouché réel. Et justement, en termes de talent, comment ça se passe?
Alors, en termes de talent, que ce soit dans la team OSS Venture ou dans les fondateurs qu'on recrute, on est très exigeant. Et en termes de fondateurs, on aime beaucoup travailler avec des second time founders. On a une head of talent qui recrute les équipes en interne et également qui recrute nos fondateurs, qui est une head of talent très étoffée, qui a travaillé chez Google, Microsoft, et qui donc, elle, nous aide à sourcer les meilleurs talents pour nos startups.
Donc, vous êtes une forme de matchmaker entre un sujet que vous avez identifié, qui vous semble profondément pertinent, un vrai pain point, et des talents remarquables qui vont justement pouvoir faire en sorte que ce match ait lieu et qu'on puisse avoir quelque chose de robuste et qui produise ses effets rapidement.
Absolument.
Alors justement, vous êtes dans le secteur du manufacturing. Comment est-ce que vous pourriez décrire cette verticale et en quoi OSS Ventures se distingue dans ce domaine?
Donc cette verticale du manufacturing, c'est la production, c'est l'industrie. Donc ça peut être la production de micros, la production de tout ce qu'il y a autour de nous en fait. Hein. Si vous regardez autour de vous, tout ce qu'il y a autour de vous est manufacturé. Et comment on s'illustre dans cette verticale? Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des membres de l'équipe ont déjà eu un pied dans l'industrie, que ce soit Renan, que ce soit les gens de l'équipe. Ou même moi, par exemple, mon mari a un parcours de designer industriel, donc les salons de l'industrie, je l'ai fait depuis bien de nombreuses années.
Anthony Hive en puissance. Je lui souhaite.
Je lui souhaite aussi. Et du coup, je pense qu'aussi, on a cette approche pragmatique parce qu'on vient du terrain.
Et donc avec un focus sectoriel.
Exactement.
Une rigueur, une méthode absolument implacable qui, j'imagine, est itérée au fur et à mesure des startups que vous créez, justement?
C'est tout à fait ça. En fait, tout ce qu'on crée, que ce soit en termes de tech, de produits, de design, ce sont des assets répétables. Par exemple, en tech, on va plutôt travailler en microservices, donc on va créer des briques réutilisables. Ça va être pareil en produits. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, s'améliorer à chacune des startups. Par exemple, On avait une première start-up dans la médecine, donc un sujet un tout petit peu loin du manufacturing, mais toujours dans les opérations, qui avait besoin d'avoir une certification ISO 27000. Ben maintenant, on a toutes les briques pour que chacune de nos start-up ait déjà cette certification. Donc, c'est une certification de sécurité et qui est très importante pour les grands comptes. Donc maintenant, comme on connaît le process pour une start-up, on l'établit déjà pour toutes nos start-up. Dès qu'on construit une start-up, elle est conforme à ces standards-là et elle n'a plus qu'à passer la certification.
Donc, Black Belt, Lean Management, appliqué.
Exactement.
Appliqué aux start-up. Le TESLISM, concept au cœur de la stratégie d'OSS Venture, met en avant l'importance du logiciel dans le secteur manufacturier. Alors, quand on parle de TESLISM, on parle de Tesla, en l'occurrence, mais je sais que vous avez d'autres exemples à nous partager aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette philosophie et comment elle guide vos investissements et vos initiatives?
Donc, le TESLISM, c'est de dire qu'en fait, la valeur est dans le software. Par exemple, si on prend une voiture Tesla, 25% de cette voiture, c'est du software. Mais des exemples un peu plus amusants, si je prends le Thermomix, ce n'est pas la casserole, la marmite qui a une valeur, ça a tout le software autour. Et on le voit aussi en termes de process. Par exemple, si je prends le Gigacaster de Tesla, donc c'est vraiment la machine qui va plier les pare-chocs.
Oui.
Si on compare avec un groupe traditionnel, eux, Tesla, en fait, sur cette machine-là, ils ont mis une couche d'AI qui peut plier le métal en fonction des conditions de température. Exactement. Et en trois actions, le pare-choc est plié. Si je prends un industriel dans l'automobile classique, il faut trois personnes, 30 actions.
C'est extrêmement clair. Et alors, justement, 4 ans, 15 créations. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que deviennent les structures que vous avez créées et vous les abandonnez en chemin ou vous avez envie de les suivre? Et comment réagissent aussi les fondateurs, les founders au regard de leur relation à OSS? Est-ce qu'ils en veulent plus ou est-ce que ça s'arrête une fois qu'on a atteint les 50K d'ARR et on se quitte bons amis?
On est toujours impliqués. On a créé justement notre premier fonds d'investissement, donc qui était un fonds de continuité, pour pouvoir continuer d'être proche de nos startups et continuer d'investir dans ces startups.
Ouais.
Et puis, on siège bien entendu au bord de nos startups. Et puis, on est à leur disposition, même quand elles ont dépassé ce 50K d'ARR. Par exemple, là, on a une startup qui vient de closer une série A. On les a aidés pendant tout le processus de levée de fonds. Mais on continue d'ailleurs d'aider nos startups dans tous les moments où ils ont besoin de nous, que ce soit en termes de produits, de sales. Si, je ne sais pas, il y a un client particulier qui est plus complexe que d'habitude à aborder, nous, on a des experts en vente complexe en interne qui peuvent les aider à tout moment.
Et les founders, on demande plus ou pas? Comment ça se passe?
Ah, les founders en demandent plus. Hein. On a des fondateurs qui mettent un point d'exigence à nous garder au board même pendant toute la suite de l'évolution de la start-up.
Donc il va falloir vous équiper pour pouvoir continuer à les accompagner dans les rounds suivants de financement.
Exactement.
J'adore. Une très belle histoire. En effet, vous partez avec une approche extrêmement pragmatique et vous bâtissez avec une grande rigueur et en appliquant ces principes de lean management à ce qu'est une start-up et en suivant ces structures dans leur cycle de financement. Très belle histoire. Un peu de perspective pour finir cet entretien. Comment voyez-vous évoluer le private equity dans les années à venir? Et par exemple, nous avons l'habitude ici de prendre comme point d'ancrage 2050. Et selon vous, quels sont les défis et opportunités qui se présentent pour cette industrie?
Alors nous, ce qu'on voit, je vais parler pour ma paroisse.
Bien sûr.
Nous, on se définit plutôt comme un fonds d'early growth. Ça veut dire que nous, on a une approche plutôt pragmatique avec nos startups. On a envie déjà, un, que nos startups aient un esprit très frugal, donc on contrôle drastiquement le burn, et ce qui nous amène à avoir des unités économiques plutôt saines. On a par exemple des startups qui, à fin de l'année, vont déjà avoir un EBITDA positif, ce qui va nous permettre, en fait, et permettre aux startups de choisir leur avenir, et choisir un avenir, soit continuer un track VC, soit au bout d'un certain seuil, choisir un track PI. On ne pense pas qu'il y a un track meilleur que l'autre. On a une chance quand même dans l'industrie, c'est que nous, Nos startups sont plutôt liquides par rapport à d'autres secteurs comme FinTech où la liquidité est beaucoup plus dure à trouver.
Justement, on évoquait préalablement à cet entretien le terme Jugad issu de l'ouvrage de Navi Raju, cette approche très, très pragmatique de l'innovation. Donc, votre point de vue, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, voire même se renforcer, cette question de frugalité.
On pense que, effectivement, la frugalité, c'est un facteur qui pousse les startups à continuer d'innover. Enfin, on en a vu beaucoup, pas chez OSS, mais dans le marché, des startups qui mouraient parce qu'elles ont eu trop de cash. En fait, avoir trop de cash, ça conduit à brûler beaucoup plus d'argent que prévu et puis à plus du tout innover en interne. Et finalement, se cacher derrière son petit doigt au lieu de résoudre les gros problèmes. Ce qu'on voit quand on implémente une culture de la frugalité, c'est que les fondateurs doivent trouver des solutions à chacun des problèmes. Et en early stage, par exemple, nous, il y a quelque chose qu'on n'aime pas du tout et qu'on interdit maintenant, c'est les fondateurs early stage qui vont, par exemple, externaliser les premiers calls clients. Nous, on pense que, par exemple, très tôt dans la vie de la startup, les fondateurs doivent être sur le terrain, parler avec les leads parce que leur travail, c'est de comprendre les leads, comprendre les clients pour arriver au product market fit. Et ça, en l'externalisant, ce savoir, on ne l'aura jamais.
Donc cette adhérence, le fait de s'assurer que nous sommes complètement, on ne se raconte pas d'histoire, on n'est pas dans une tour d'ivoire, mais réellement, même si c'est une petite tour d'ivoire de start-up, mais réellement au contact du marché, des besoins de ce marché. Et ça ne se délègue pas.
Exactement. Vraiment, le contact au marché, c'est primordial en early stage. C'est vraiment de l'or pur. Un feedback lead, un feedback client, c'est de l'or pur pour continuer à construire sa start-up.
Aurore, une toute dernière question. Que pouvons-nous vous souhaiter, à vous et à OSS Ventures, pour 2024?
Qu'on continue à beaucoup s'amuser en créant cette histoire.
Avec toute cette simulation, cette équipe formidable et de très beaux projets, et vous avez une chance absolument exceptionnelle de pouvoir ouvrir 15 portes par an sur 15 problématiques, et vous devez découvrir des choses formidables. Ça doit être difficile d'en fermer certaines, mais j'imagine que dans le temps, vous pourriez être amené à les réouvrir.
Absolument.
Un grand merci pour cet échange. Aurore, à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.